J'ai une heure pour parler en cinq siècles, une religion prêchée en Orient par un juif, Jésus, a christianisé, s'est imposé dans l'ensemble du bassin méditerranéen, dans l'Empire romain, et est donc au fondement de l'Europe actuelle, qui vient de discuter, mais quand même une évidence. Et comment, sur le plan histoire des religions, comment un monothéisme, par le marché un monothéisme trinitaire, Dieu en trois personnes, s'est imposé donc dans un univers marqué religieux, marqué par le polythéisme, ou par monothéisme plus simple en quelque sorte, qui est le monothéisme juif. Donc, puisque le plan circule, vous voyez que ce n'est pas tout à fait ce qu'a annoncé Cyril. En ce sens, on m'a posé deux cahiers des charges. Il fallait parler des textes, et il fallait parler en même temps des hommes, c'est-à-dire des conditions concrètes de la christianisation, puisqu'en fait, moi, je suis une historienne rate et pâquerette, hein, qui travaille sur les pierres, qui travaille sur les vestiges, et beaucoup plus que sur les idées. Donc, j'ai essayé de mêler les deux, parce que, entre autres, j'en ai vu l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faudrait quitter l'idée, et surtout pas garder l'idée, que le christianisme, religion nouvelle, donc, du 1er siècle de notre ère, est sorti de la mort de Jésus, au moment de la mort de Jésus et de la publication des évangiles, comme une religion toute constituée, avec une doctrine, avec une organisation, des évêques, voire même l'évêque de Rome à sa tête. C'est un peu l'idée que les gens gardent finalement, tellement le modèle de l'Église catholique romaine est aujourd'hui prégnant et paraît intangible et va exister toute éternité. Or, en fait, tout à l'heure, Xavier parlait de la, elle disait que j'allais traiter de la naissance du christianisme. Je préférerais le mot émergence. C'est un processus de christianisation. Aujourd'hui, si vous voulez, on ne fait plus l'histoire de l'Église. On ne fait même plus l'histoire des chrétiens. On fait l'histoire de la christianisation, c'est-à-dire d'une dynamique. Qu'on soit croyant ou non croyant, on est tous dans le même projet de recherche, la même dynamique de recherche. Donc, cette christianisation, on la revoit à travers des questions, et des questions justement que posent les textes qui nous permettent de saisir les débuts du christianisme. Donc, je vais commencer par les textes fondateurs, non pas pour vous les présenter typologiquement, je dirais, mais surtout pour vous montrer quelles questions ils nous permettent maintenant de poser pour essayer de comprendre comment s'est produite cette émergence de la religion nouvelle. Donc les textes fondateurs chrétiens normatifs, ce que les chrétiens ont retenu dans leur canon. Alors canon en grec ça veut dire règle, c'est-à-dire le canon, c'est les canons, je l'ai peut-être vu pour le judaïsme, c'est un ensemble de textes normatifs. Donc le canon chrétien a été sélectionné à la fin du IIe siècle, à partir des années 180, donc vous voyez, un siècle et demi après la mort de Jésus. Et c'est ce qui constitue donc le Nouveau Testament, une collection de livres. Alors une première difficulté dont il faut bien prendre conscience, c'est que les textes les plus anciens de cette collection du Nouveau Testament ne sont pas les évangiles qui transmettent la prédication de Jésus, comme vous le croyez peut-être, ce sont les lettres de Paul, vous avez donc des repères chronologiques, qui datent des années 50. Alors, les lettres de Paul fixent une théologie, une partie de la théologie chrétienne, que Jésus est le Christ Messie et Dieu, et développent une pastorale qui inspire encore donc les églises à travers les lectures liturgiques du dimanche. Les évangiles, eux, sont plus tardifs. Les quatre évangiles canoniques, normatifs, retenus par l'Église catholique, sont sans doute tous, peut-être pas celui de Marc, donc c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, peut-être pas celui de Marc, mais sont tous postérieurs à 70. Comment on le sait? Parce qu'ils font tous allusion à la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains en 70 de notre ère. Donc là, on a une référence chronologique précise. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits deux générations après la mort de Jésus, mort en 30, et également donc après un échec sanglant et catastrophique du judaïsme, la fin du temple, la fin d'un judaïsme centré sur le temple. D'où la question, poser en histoire des religions, quel est le véritable fondateur de la religion chrétienne, ou du christianisme comme nouvelle religion? Est-ce que c'est Paul, historiquement le plus ancien auteur chrétien, le plus ancien doctrine théologien chrétien, ou est-ce Jésus, dont la parole ne nous est connue que bien après sa mort, à travers les évangiles qui datent de 70? Dans cette même époque, les années donc 70, 80, la fin du 1er siècle, disons la deuxième génération après la mort de Jésus, datent les actes des apôtres, qui sont plus simples à présenter, une histoire de la mission chrétienne, de la christianisation à la génération apostolique. Date aussi de cette période, l'Apocalypse, ou livre de la Révélation, qui clôt le Nouveau Testament, qui est une littérature pour temps de persécution. Qui nous montre donc que dans les années 90, extrême fin du 1er siècle, il y a déjà des tensions dans le phénomène, des résistances au phénomène de christianisation. Et un peu avant, donc, tout un lot d'épîtres, de lettres apostoliques attribuées à Pierre, Jude, Jacques, Jean, aux Hébreux et les pastorales attribuées à Paul, qui datent des années 70 à 120 à peu près, 100 de notre ère, donc, qui sont des écrits de théologie et de pastorale. Et là, donc, ce qu'on en dégage, c'est la diversité, ce que je traiterai tout à l'heure, la diversité d'identité chrétienne, le pluralisme du christianisme, donc, à ses débuts. Chaque épître, donc, représente une sensibilité chrétienne particulière et organise une mouvance particulière autour de lui, sous le nom, donc, d'un grand apôtre. Donc, les textes fondateurs des chrétiens, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais il récupère, par une articulation théologique extrêmement importante, ce que vous avez étudié donc, la semaine passée, la Bible hébraïque, que les chrétiens vont appeler l'Ancien Testament. Ce n'est pas une appellation juive, hein, vous avez dû le voir. Donc l'articulation théologique, comment se fait-elle? Elle repose sur l'acte de foi posé par les apôtres, les premiers disciples de Jésus, que Jésus est le Messie venu accomplir les prophètes. Donc tout ce qui a été les signes, les paroles, les actes et les signes de Jésus lors de sa prédication illustre, démontre, réalise quelque chose de la Bible hébraïque. D'où la Bible des chrétiens telle qu'elle est actuellement. Ancien Testament, la Bible hébraïque, une annonce donc de l'arrivée de Jésus comme Messie, et le Nouveau Testament. Alors cela peut paraître très simple à des chrétiens vraiment formés donc, dans la tradition chrétienne, mais ça pose les problèmes des rapports entre les deux monothéismes. Tout à l'heure, le recteur y a fait allusion en disant que le judaïsme a maintenant une situation particulière, donc au sein de la pensée et de la théologie chrétienne, le pape Paul VI parlait de notre frère aîné. Donc, d'un point de vue chrétien, ça peut paraître simple, une sorte d'accomplissement. D'un point de vue juif, c'est beaucoup plus complexe. On a parlé dès l'Antiquité d'usurpation, de récupération donc indue du judaïsme par le christianisme. Et l'intégration donc de la Bible hébraïque dans les textes fondateurs des chrétiens en tant qu'Ancien Testament, a fait l'objet donc d'une polémique très, très dure qui a duré plusieurs siècles, qui commence donc avec Marcion, M-A-R-C-I-O-N, au milieu à peu près vers 140-150 de notre ère, et qui s'est prolongée donc jusqu'au 5e siècle, jusqu'à la période de Nicée. Jusqu'à la fin du 4e siècle. Et ça repose. Et donc, Marcion a fait l'objet, donc, est devenu le flambeau, le personnage référent, le théologien référent, donc une histoire des religions assez antichrétienne au 19e et au 20e siècle. Et on revient à la dernière question, qu'est-ce qui a fondé le christianisme? Jésus un juif ou Paul un juif renégat? On va revenir sur la question en discussion, si vous voulez. Et est-ce que le christianisme est le développement du judaïsme ou une religion nouvelle? problèmes donc, qui sont apaisés maintenant, heureusement pour l'exposé que je vais vous faire, mais qui a animé donc, des polémiques religieuses très virulentes au 19e et au 20e siècle. Alors, nous avons donc d'autres sources textuelles postérieures, les Pères de l'Église, dont la production se déploie entre le 2e et le 4e siècle, qui sont, je dirais, des théologiens fondamentalistes. Ce sont eux qui fixent les bases de la théologie fondamentale, d'où leur nom, et qui vont définir donc l'orthodoxie de la religion chrétienne, l'opinion juste. Et je vous ai donné, je cite précisément, donc, dans ma bibliographie, le livre qu'il faut consulter sur ce point, qui est très clair, très bien fait, une vraie histoire des pères de l'Église, celui du père Michel Fidoux, un jésuite, intitulé « Les voies du Christ ». À côté des pères de l'Église, donc, qui vont poser les fondements de la théologie chrétienne, il y a ce qu'on appelle les apologètes, plutôt que les apologistes aujourd'hui. Il y a ceux qui vont travailler plutôt en théologie morale, je dirais, pour définir les rapports du chrétien au monde. Et traiter donc de la question de la sécularisation croissante du christianisme au 2e, 3e et 4e siècle. Il y a ensuite les écrits apocryphes. Alors les écrits apocryphes, c'est toute une tradition, c'est toute une production littéraire qui reprend les genres littéraires du Nouveau Testament que nous venons de voir, c'est-à-dire les évangiles, l'annonce du message de Jésus, les épîtres, qui sont des lettres attribuées aux apôtres, et les actes, qui sont une forme d'histoire, de récit historique. Donc il y a les actes des apôtres, dont Luc est l'auteur, et il y a les actes des apôtres apocryphes. Donc on reprend les genres littéraires du Nouveau Testament pour combler tous les silences des écrits canoniques, du Nouveau Testament canonique. Donc tout ce que vous avez en tête sur l'enfant Jésus, le fait que les parents de la Sainte Vierge s'appelaient Anne et Joachim, ou des choses comme ça, tout ça ce sont les apocryphes. Il s'agit de remplir l'histoire. C'est pas, je dirais, pour faire défaut, c'est pour répondre à la sensibilité, c'est une littérature de dévotion. C'est faire plaisir aux croyants, c'est créer une relation sentimentale avec Jésus, avec la Vierge, avec les apôtres, même avec Pilate, qui devient un saint, par exemple. Pilate, qui est le gouverneur romain qui a donné Jésus à mort, devient un saint et même un martyr, donc, dans des actes apocryphes. Donc, ce qu'il faut en retenir, ils sont très étudiés depuis une vingtaine d'années, depuis une quarantaine d'années, 1980. Avant, on disait Vaderitro, c'est de la production clandestine. Et maintenant, donc, on les étudie beaucoup. Par exemple, on ne traitera jamais des épîtres de Paul sans intégrer la troisième épître aux Corinthiens, qui est une apocryphe. Parce que ça rencontre justement de ce que j'ai énoncé comme une ligne directrice de la recherche aujourd'hui, la pluralité des identités chrétiennes. Ce foisonnement donc de sensibilité chrétienne qui marque ces trois siècles d'émergence. Et c'est un bouillonnement d'idées, c'est un bouillonnement d'options sur lesquelles donc, il faudra attendre les grands conciles du IVe siècle pour trancher et définir donc, une orthodoxie. Enfin, donc, il y a maintenant, on insiste aussi beaucoup, si vous feuilletez par exemple le volume de la Pléiade paru cet hiver et intitulé « Premiers écrits chrétiens », on accorde beaucoup d'importance donc au regard extérieur, regard juif, regard païen, entre guillemets, grec et chrétien sur le christianisme. Et on voit donc qu'on arrive à toucher des formes de controverses, des formes de débats qui nous renseignent sur une forme de christianisation, comment les apôtres donc, sont allés païens, sont allés non-croyants. Pour finir sur ces documents fondateurs, et peut-être à votre grande déception, il y a très peu de sources archéologiques, il n'y en a pas avant le IIIe siècle. Mais c'est quand même émouvant de se dire que les premières traces d'édifices chrétiens, spécifiquement chrétiens, datent du début du IIIe siècle. C'est une maison aménagée en édifice liturgique à Doura Europos, dont les peintures, deux des peintures ont été déplacées à l'Institut du monde arabe pour l'exposition sur les chrétiens d'Orient, c'est assez émouvant d'ailleurs de les voir. Et plus récemment encore, on a trouvé en Palestine, dans l'État d'Israël, donc un local de soldats chrétiens dans un camp légionnaire du IIIe siècle, avec cette très belle proclamation de foi sur une table eucharistique, Jésus, Christ, c'est-à-dire Messie, Dieu, une proclamation publique donc, de la divinité du Christ, de Jésus-Christ, le fondateur du christianisme. Donc le fait quand même qu'il y a une petite archéologie n'est pas si décevante et elle nous incite, ce que je voudrais dire un mot, à dénoncer un mythe, le mythe des catacombes. On voit souvent l'église des premiers siècles comme une église souterraine, cachée, clandestine, au point que l'église des catacombes est devenue une sorte de label pour désigner l'église souterraine en Chine et d'autres églises persécutées. Ce n'est pas le cas du tout de la dynamique de christianisation du premier christianisme. Donc, ayant posé les textes fondateurs, ayant essayé de dégager donc, les questions qu'il pose et à travers lesquelles nous travaillons maintenant pour donner une histoire pas plus complète, plus complexe, plus que plus complète, de l'émergence du christianisme, j'aborde son fondateur, c'est-à-dire Jésus. Alors la difficulté, vous l'avez bien senti dans mon propos introductif, c'est que Jésus n'a rien écrit et que nous avons donc sur son message, sur sa prédication, une information rétrospective, ce qui a posé depuis Spinoza, au XVIIe siècle, la question de l'historicité de Jésus. Est-ce que Jésus, et vous retrouvez ça récemment dans le roman d'il y a trois ans, d'Emmanuel Carrère, Le Royaume. Est-ce que Jésus ne serait pas un personnage mythique, une figure mythique, inventée par Paul, le véritable fondateur, puisque le plus ancien auteur chrétien, le véritable fondateur d'une religion nouvelle. Et chez Onfray, dans Décadence, paru donc l'hiver dernier, vous avez à nouveau cette assertion que Jésus est un mythe. Mais vraiment, pour Onfray, qui se pose comme philosophe, comme intellectuel, comme historien, c'est un combat d'arrière-garde, de derrière les fagots. Car aujourd'hui, donc, ça part qu'un problème dépassé. À partir du moment donc, où on a utilisé les regards extérieurs sur le christianisme, longtemps on a cherché l'archéologie, la grotte où était né Jésus, la maison de Jésus à Nazareth. Alors là, ça ne veut dire rien du tout, bien entendu. Mais le fait que dans l'Antiquité, même au plus fort de la controverse entre les Romains et les Grecs, les païens, si vous voulez, les chrétiens, la résistance des intellectuels païens au christianisme, jamais l'historicité de Jésus, l'humanité de Jésus n'a été remise en doute. Ah, ils ont nié qu'il était fils de Dieu. Mais jamais son historicité n'a été mise en doute. Jamais, alors nous avons des témoignages extérieurs sur Jésus, qui sont rares, mais concordants, d'historiens juifs, comme Flavius Joseph, d'historiens romains, comme Tacite, d'intellectuels syriaques ou d'intellectuels grecs, comme Lucien de Samosate. Et personne n'aurait mis en doute que Jésus avait bien existé, qu'il avait une famille. Jacques, frère de Jésus, est connu dans la rumeur de l'Antiquité, Jean-Baptiste aussi. Et personne, les témoignages sont concordants sur le fait que c'était un prédicateur réputé qui faisait des miracles. Personne, aucun païen n'a remis en doute la réalité, quel que soit le nom qu'on donne à ce terme, hein, mais la réalité des miracles de Jésus. Donc ça c'est pour même mes collègues historiens du judaïsme ou historiens agnostiques, c'est la meilleure preuve. Jésus a existé parce qu'on en a parlé en son temps. Donc on revient à des sources textuelles, voyez. Alors il y a l'autre argument qui est ce qu'on appelle la preuve nécessaire. Jésus a été condamné à mort, ça c'est un fait historique, l'historien romain Tacite en parle, il a été condamné à mort par les Romains, le gouverneur romain Ponce Pilate, donc il faut une raison historique, c'est un événement historique la mort de Jésus. Et cet événement historique, c'est qu'il a été présumé aspiré à la royauté. L'écriteau sur la croix, qu'on considère aussi comme une preuve authentique, car 30 ans après, on ne pouvait pas écrire n'importe quoi, des gens l'avaient vu, cet écriteau. Donc il a été condamné comme roi des Juifs. Donc là, on touche encore à un niveau de réalité historique. Quoi qu'il ait été, quoi qu'on en pense dans sa foi, il a été perçu par certains, et en particulier donc, par le pouvoir romain, comme un aspirant à la royauté. Un soupçon qui va peser sur la famille de Jésus, puisqu'on connaît sa force de la famille de Jésus jusqu'au début du IIe siècle, qui va peser ensuite sur sa famille. Donc aujourd'hui, on voit plutôt dans l'échec humain de Jésus, sa condamnation à mort, l'échec d'un messianisme qui a été pensé par certains comme une aspiration à restaurer une royauté temporelle, plutôt que comme un prophète rebelle. Là aussi, il y a aussi un balancement d'argumentation et de débat correspondant un peu à la sensibilité de chacun sur lequel on ne peut pas trancher actuellement. Jésus fut-il condamné à mort comme prophète rebelle ou fut-il condamné à mort parce qu'on le considérait comme aspirant à la royauté? Mais donc, il y a des raisons historiques de la condamnation à mort. Là encore, on touche l'histoire. Mais, alors la date de sa mort est à peu près certaine. Pour des questions de calendrier de la fête de Pâques, on arrive à la fête de Pâques de 30 de notre ère, c'est la date la plus vraisemblable. La date de sa naissance, par contre, se déplace sur 10 ans, suivant qu'elle est datée par la fin du règne du roi Hérode, qui est mort en 4 avant notre ère, ou par le recensement de Quirinus dans l'évangile de Luc, qui, lui, a eu lieu en 6 de notre ère. Là, on est dans le flou. Donc, l'historicité de Jésus, vraiment, n'est plus remis en cause, à part comme un débat dépassé, mais sans doute toujours populaire, puisqu'on ferait à juger bon de l'activer à sa manière, je veux dire, assez vulgaire. Mais la question... Oui, c'est un livre très vulgaire, je trouve. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais très vulgaire, ce qui n'était pas jusque-là. Les idées, c'est une chose, le ton et les exemples que choisir, mais tu... Mais les évangiles, qu'est-ce qui nous apporte la connaissance de Jésus? Alors, c'est la collaboration qui existe maintenant entre historiens du judaïsme, puisque pour eux, Jésus, c'est une tranche d'histoire juive, la prédication de Jésus. À l'Université hébraïque de Jérusalem, il y a un secteur qui se consacre à cette recherche. Historiens croyants, historiens du monde romain. Se dégage donc une... et en principe, quelquefois difficilement, en collaboration avec les théologiens, c'est plus facile avec les exégètes, se dégage une lecture des évangiles à plusieurs niveaux. Les évangiles, le fil rouge des évangiles, de chacun des quatre évangiles, c'est une histoire théologique. Une histoire théologique où ce sens, où ce fil rouge, l'unité d'action, si vous voulez, c'est la révélation de Jésus comme Messie et Fils de Dieu, attesté par sa résurrection, les apparitions après sa résurrection. Donc là, c'est une histoire théologique, qui est l'ordre des théologiens. Mais on peut cerner, j'ai essayé de le montrer à propos de l'écriteau de la croix, on peut cerner, pris dans cette histoire théologique, illuminé, repensé par l'acte de foi posé par les apôtres dans la résurrection de Jésus, attestant qu'il était le Christ, on peut cerner donc différentes strates, plus ou moins historiques, je vais vous donner, et qui est l'objet donc du travail des historiens. Je vais vous donner un exemple, la multiplication des pains, si vous avez ce récit célèbre en tête. Un croyant, un chrétien croyant, le voit comme une préfiguration de la résurrection, de l'Eucharistie, donc la nourriture, Jésus comme nourriture spirituelle. Et des théologiens restent là. Mais l'historien se dit, ce qui suit cet épisode, donc est-ce que ce serait un récit mythique, un récit purement symbolique pour annoncer l'institution de l'Eucharistie lors de la dernière scène? L'historien se dit oui, mais cette multiplication des pains, elle a été suivie d'un mouvement de foule pour porter Jésus à la royauté. La logique même des évangiles nous montre qu'il y a une autre facette historique à cet événement, qui n'est pas seulement symbolique pour préfigurer l'Eucharistie. Ça a été aussi une action, il a eu un impact sur la foule, et ça qui nourrit donc l'accusation d'aspiration à la royauté portée contre Jésus. Donc on lit maintenant l'histoire de Jésus dans les évangiles à différents niveaux d'historicité, et pas, on n'en fait pas seulement donc une histoire théologique. Mais évidemment, ce n'est pas du tout une vie de Jésus. Il y a des grands blancs, on en connaît très peu de durée. Il ne s'agit pas du tout cela. Il s'agit plutôt d'ancrer la révélation de Jésus comme fils de Dieu et Messie, dans les, de mieux l'ancrer dans les réalités historiques du temps. Le second point sur lequel l'histoire, et le recteur y a fait allusion d'une façon assez précisément, sur lequel donc, l'approche historique, l'émergence du christianisme, fait, il faut dire, de grands progrès, je crois que c'est l'expression juste, c'est les relations donc, entre juifs et chrétiens. Ou plutôt, moi qui suis historienne, je dis entre chrétiens et juifs. Parce que juifs et chrétiens, c'est comme l'a dit le recteur, c'est considéré donc que puisque la Bible des chrétiens, le Nouveau Testament, s'intègre, s'articule sur la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, le judaïsme est la matrice théologique, une des matrices théologiques, la matrice théologique du christianisme. Moi, j'aime mieux employer l'expression chrétien et juif, me dire les chrétiens, à partir des années 40, quittent la Palestine, ils ont atteint Rome dans les années 40, ils donc parcourent le monde, et qu'est-ce qu'ils trouvent dans les, on voit bien les voyages de Paul, qu'est-ce qu'ils trouvent dans les villes où ils passent? Ils trouvent une synagogue, ils trouvent une communauté juive. Donc c'est plutôt comment, par l'arrivée des chrétiens, à travers l'arrivée des chrétiens, qu'il faut donc analyser les relations entre juifs et chrétiens. Et revenir d'un mythe, donc le mythe d'une rupture brutale et immédiate. Il y a toute une époque, juste comme l'a rappelé le recteur, jusqu'au Concile Vatican II, document conciliaire Nostra Aetate, le christianisme a rejeté le judaïsme. La notion de peuple déicide n'apparaît pas, du peuple qui a mis Dieu à mort, Jésus comme fils de Dieu à mort, n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Mais elle apparaît donc à la fin du IIe siècle. Et surtout, donc, dès la rédaction des évangiles, qui est postérieure donc à 70, comme je vous l'ai rappelé, et à la ruine donc du judaïsme du temple, le judaïsme s'expresse. Dans les évangiles en particulier, donc, il y a une véritable caricature des pharisiens, alors que sépulcre blanchi, hypocrite et tout ce que vous voulez, alors que les historiens du judaïsme, par exemple, pensent que Jésus était un juif. Était d'un judaïsme proche de celui des pharisiens, plus que de celui d'autres sectes juives. Mais en 70, donc, après la disparition du temple, caricature donc des pharisiens. En 135, c'est la fin donc des catastrophes vécues par le judaïsme, c'est la dernière guerre de libération menée en Palestine contre Rome. C'est la prise de Jérusalem, la transformation de Jérusalem en ville romaine, la fin d'une église juive de langue hébraïque à Jérusalem. Et donc, de cette seconde catastrophe, va s'élaborer à travers Saint Justin en particulier, une théologie qui fait désormais des chrétiens, du peuple chrétien, le véritable Israël. Le premier Israël, l'Israël de la Bible, l'Israël juif, il a échoué et Dieu l'a puni. Il n'a pas reconnu le Messie. Dieu l'a puni par la destruction du temple et par la destruction ensuite de la ville sainte. Et il est voué donc à dépérir, il est voué à une mort naturelle. D'où la réintégration de la Bible hébraïque. C'est désormais donc la religion chrétienne, le christianisme, qui va porter en l'accomplissant donc l'intégralité de la religion de la révélation monothéiste. Alors ça, c'est vu du point de vue des chrétiens. Évidemment, du point de vue des juifs, c'est ce qu'ils appellent le vol, la récupération. Et ça a posé donc des rapports antagonistes entre juifs et entre chrétiens et juifs qui ont duré donc jusqu'à Nostra Aetate et Vatican II, jusqu'à 1965. Mais immédiatement, donc, la transformation des rapports théologiques entre juifs et chrétiens lors de Vatican II a relancé, surtout aux États-Unis d'ailleurs, a relancé la recherche historique sur les rapports entre les deux monothéismes de façon assez remarquable, avec désormais des études sur le terrain qui montrent que chrétiens et juifs ne se sont pas séparés si facilement. Il y a des chrétiens juifs, il y a beaucoup de convertis venus du judaïsme, quand on étudie les documents, non pas donc la vision théologique lissée, mais les documents donc sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de convertis venus du judaïsme, de convertis au christianisme venus du judaïsme. On dit que c'était impossible. Ils célèbrent souvent Pâques à la même date. Il y a des chrétiens qui célèbrent l'Eucharistie le jour du sabbat, le samedi, le jour de fête des Juifs, et non pas le dimanche. Qu'est-ce que je pourrais encore donner comme exemple? Il y a des chrétiens ou des, qui viennent écouter donc les lectures liturgiques à la synagogue, et des grands exégètes chrétiens comme Origène d'Alexandrie qui s'informent dans son travail d'exégèse sur les textes bibliques, qui s'informent auprès des rabbins. Et la, la meilleure preuve donc que les relations ne sont pas interrompues si vite que cela, et les interactions entre la, les églises et les synagogues, c'est que lors des grandes persécutions, à partir de 250, elles sont tardives, j'en dirais peut-être un mot, les grandes persécutions, les juifs, les synagogues ont proposé aux chrétiens de les récupérer pour les faire bénéficier donc des exemptions dont ils jouissaient dans l'Empire dans l'Empire romain. Et l'idée, j'ai cité celui qui en Amérique promeut ses travaux, Boyarin, l'idée qui prévaut aujourd'hui, donc, c'est que loin de se séparer et de s'opposer donc, dès la publication de la fondation du christianisme, christianisme et judaïsme donc, se sont développés parallèlement avec une réflexion parallèle sur différents thèmes, celui du martyr, donner sa vie, accepter la mort pour sa foi, celui aussi, la préoccupation aussi de l'orthodoxie, donc deux évolutions parallèles au cours du 2e, 3e et encore 4e siècle, jusqu'à l'époque donc des grands conciles, plutôt que séparation brutale. Le troisième point que je voudrais aborder maintenant, donc, et l'annoncer donc, c'est que est-ce qu'il faut parler de christianisme? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire ainsi au singulier? D'abord une question de terme. Le nom de chrétien apparaît dans les années 40. On a à la fois le témoignage d'une source chrétienne, les Actes des Apôtres, et d'une source païenne, romaine, l'historien latin, l'historien romain Sueton. Donc dans les années 40 à Rome et sans doute aussi à Antioche. Et ça veut dire quoi chrétien au sens propre du terme? Ça veut dire ceux qui sont au Christ, qui reconnaissent quelque chose dans le Christ. Et ce sera la grande profession de foi des martyrs. Je crois en un seul Dieu, monothéisme, j'appartiens au Christ, j'appartiens à l'Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire à cette époque, donc appartenir au Christ et appartenir à l'Église? Quant au terme du christianisme, qui lui donne l'impression donc d'une doctrine et d'une institution donc mieux structurée, plus précise, mieux structurée, ça apparaît donc dans les années 115-120, au début du second siècle, sous la plume, si j'ose dire, de Saint Ignace d'Antioche, mais simplement comme opposition au christianisme. Le christianisme, c'est un monothéisme, par opposition au judaïsme. Le christianisme, c'est un monothéisme différent du judaïsme parce qu'il se réfère au Christ. Vous voyez donc que les choses demeurent assez floues et imprécises. Bien entendu, on ne parle pas d'Église au singulier. Elle apparaît au singulier dès les épîtres de Paul, c'est vrai, les écrits fondateurs, mais comme un horizon à atteindre, comme une projection eschatologique, son idéal étant réalisé dans le domaine, dans le royaume de Dieu. Mais comme un programme, une épure, comme avait dit Alain Decaux très justement, Alain Decaux que vous citiez donc tout à l'heure. Donc on parle toujours, durant ces trois ou quatre premiers siècles, on parle même encore au IVe siècle, on parle toujours d'église au pluriel, d'église locale. Mais quand nous travaillons maintenant l'église de Smyrne, l'église de Rome, qui n'est pas plus qu'une autre, hein, l'église d'Antioche, l'église d'Alexandrie, mais même quand nous travaillons sur le terrain, nous voyons en particulier à Rome, à Smyrne et à Carthage, pour citer trois villes importantes de l'Antiquité, donc, qu'il n'y a même pas une unité d'église locale autour de l'évêque. Il y a des groupes, de multiples sous-groupes, plus ou moins judaïsants, plus ou moins charismatiques, plus ou moins inspirés, quand même des uniformes. D'où cette dominante donc, de l'histoire du christianisme, premier christianisme aujourd'hui, les identités plurielles, la diversité des sensibilités chrétiennes. Et ça se traduit, donc là vous avez le titre du livre de mon collègue Yves Révillard, les chrétiens d'antiquité tardive et leurs identités multiples, qui rend bien compte de cette dimension urbaine, non, de la recherche et de l'histoire pour aujourd'hui du christianisme. Avec un danger de sectarisme évident, on ne parle pas encore d'hérésie au sens où on en parle aujourd'hui, de déviance doctrinale, parce qu'il n'y a pas d'orthodoxie constituée. Mais il y a un bouillonnement d'idées, des controverses sans cesse, plus ou moins tendues, des rencontres, des débats. C'est une époque donc de grande ébullition sur des questions doctrinales et aussi sur des questions disciplinaires. Qu'est-ce que représente l'évêque? Où est l'autorité? L'autorité établie de l'évêque, l'autorité charismatique de tel prédicateur itinérant. Donc rien n'est réglé de tout cela. Et c'est une période de recherche et de grande ébullition. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la construction de l'unité que sur les divisions, les identités multiples, dans mes livres récents. Et ce qui est intéressant à souligner, je crois, c'est que cette construction de l'unité, c'est en fait une réunion, elle se fait dans la diversité. Elle se fait donc comme une église des réseaux. C'est-à-dire la création, c'est très moderne, c'est ce qui intéresse aujourd'hui l'historien évidemment, c'est la construction donc de réseaux qui vont unir entre eux ces groupes et ces églises multiples. Alors ces réseaux donc, sont d'abord des réseaux épistolaires, et le modèle bien sûr ce sont les épîtres de Paul, un mode de communication très particulier, on dit toujours manifestant la présence dans l'absence, et qui utilise toutes les ressources innovantes de l'art épistolaire. Donc réseau épistolaire, circulation de l'écrit, non seulement des lettres, mais également des codex. Ce sont les chrétiens qui ont inventé le petit livre relié qui ressemble à un carnet, si vous voulez, et qui est évidemment beaucoup plus facile à transporter, à faire circuler que les papyrus, qui étaient jusque-là donc le mode d'écriture et de lecture des élites intellectuelles. Après les réseaux épistolaires, les réseaux d'hospitalité qui permettent la circulation des personnes, tous les grands évêques ou les grands intellectuels de l'Orient, par exemple, viennent jusqu'à Rome, la capitale de l'Empire. Et si les controverses sont possibles, si les débats doctrinaux sont possibles, c'est grâce à ces réseaux d'hospitalité et à la circulation des personnes. Et enfin, donc, les réseaux épiscopaux, c'est-à-dire les évêques circulant apprennent à se connaître et finalement se construit un réseau des évêques à l'échelle de la Méditerranée, depuis la péninsule ibérique jusqu'à l'Euphrate, ou à peu près. Et lors des grandes crises à la fois disciplinaires, les persécutions et doctrinales qui mettent les églises en ébullition au début du IIIe siècle, les évêques, donc, pas tous les évêques, mais une majorité d'évêques, donc, arrivent à fonctionner ensemble et à tracer donc des épures unitaires pour résoudre ces crises. Et il en résulte donc ce qui nous apparaît aujourd'hui très moderne après un millénaire donc d'église catholique romaine centralisée avec un pape à sa tête, une hiérarchie très bien établie et une centralité évidente, les choses descendant du haut en bas, même lors des grands conciles. On découvre avec un peu d'étonnement donc que la représentation de l'Église, de l'Église en tant que projet lors de ces trois premiers siècles, c'est une représentation synodale dont le prototype donc est fourni dans les Actes des Apôtres, cette première histoire de l'Église, lorsque au chapitre 15 donc est raconté et décrit ce qu'on appelle quelquefois le premier concile de Jérusalem, que j'ai mieux appelé donc la réunion apostolique de Jérusalem sur la manière donc sur les limites de la mission et la manière d'intégrer les non-juifs donc à la communauté qui se rattache au Christ. Et dans l'histoire donc du christianisme, le synode devient une institution fonctionnelle et sans cesse pratiquée au tournant du début du deuxième et du troisième siècle. Chaque fois donc qu'éclate une crise disciplinaire, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire des chrétiens qui ont cédé, qui ont fait des compromis en temps de persécution, ou doctrinale. Quelle est la place du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus, est-ce que le Christ a été adopté par Dieu le Père, ou est-ce qu'il est Dieu de toute éternité? Donc, j'entends qu'éclate une crise de ce type, donc, on va réunir une conférence épiscopale. C'est ça, un synode. C'est pas un sous-concile à cette époque-là. C'est une conférence épiscopale. Alors, les premières sont très réduites, 7, 9, 10 membres, et on arrive à une centaine de membres, donc, à la fin du IIIe siècle. Donc, il s'agit de trouver l'unité dans la diversité et de dégager une unanimité, donc. Alors, comment ça se passe? Après un débat où tout le monde est entendu, on vote, c'est le principe majoritaire. C'est aussi un principe de collégialité, très différent donc de la centralité de l'actuelle Église catholique romaine, puisque tous les évêques sont sur le même plan, il n'y a aucune préséance, il n'y a aucune prééminence. Donc collégialité, principe majoritaire, et ensuite la décision qui obtient la majorité est consignée dans une lettre, encore le système de communication et les réseaux épistolaires, et on essaie de donner donc à cette opinion majoritaire la plus grande diffusion possible en faisant circuler la lettre aux quatre coins donc de l'Empire. Donc en fait, le fonctionnement des églises, ou même de l'Église au singulier, si vous voulez, durant ces trois premiers siècles, c'est un fonctionnement majoritaire dans la diversité, collégial, qui aboutit à une multipolarisation du christianisme. Il n'y a rien qui ressemble à une question de préséance et de primauté romaine, même si la primauté de Pierre est bien dans les évangiles. Mais elle ne se traduit pas encore institutionnellement par une église hiérarchisée et un principe de centralité. Le dernier mythe que je voudrais déconstruire, c'est celui donc d'une église des catacombes. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un mythe relativement récent qui date en fait de la Révolution française. Si vous avez l'occasion de lire les Martyrs de Chateaubriand, vous en rendrez compte. C'est la Révolution française où effectivement il y a eu des prêtres cachés, où il y a eu des prêtres, des carmélites, venant bénir donc les condamnés sur le chemin de la guillotine. C'est cela donc qui a transposé cette idée donc sur les origines de l'Église, avec cette idée donc d'un christianisme souterrain, où on se réunissait donc dans les cimetières chrétiens, les catacombes de Rome, pour y célébrer l'Eucharistie. Donc les catacombes, cimetières devenus un lieu rituel, un lieu sacramentel. Et bien sûr, donc, cela s'appuyait sur les ruines archéologiques les plus visibles à Rome, et les ruines archéologiques chrétiennes les plus anciennes aussi. Donc il a fallu attendre l'archéologie récente au XXe siècle pour démonter ce mythe, montrer que d'une part, comme on dit dans notre jargon, les catacombes romaines ne sont pas des lieux de séparatisme funéraire. Oui, il y a des tombes de chrétiens, mais elles sont ménagées donc dans des immenses cimetières, chacun a son enclos funéraire, certes, mais au voisinage donc de Romains, de païens, de juifs aussi. Donc il n'y a pas de séparatisme funéraire. Deuxièmement, donc jamais les catacombes ont été des lieux de célébration de la liturgie chrétienne. Et en fait, donc, il y a aussi la question des persécutions. Les chrétiens ne sont pas persécutés continuellement pendant trois siècles. Jusqu'en 250, les persécutions de chrétiens sont des événements accidentels, des affaires locales. On le voit très bien dans les textes chrétiens. À partir de... Il faut que j'arrête ou...
Non, ça part.
Jusqu'en 250, ce sont des affaires locales. Et qui s'arrête assez vite. À partir de 250, c'est un petit peu... Alors, il y a effectivement un interdit légal des chrétiens qui remonte à la fin du 1er siècle, mais qui se traduit dans la pratique romaine par le laisser-faire. C'est-à-dire ce que disent les rescrits impériaux, Il est interdit d'être chrétien, mais surtout ne recherchera pas les chrétiens. Vous voyez, c'est un laisser-faire qui est très très romain. En 250, ça change, parce que il y a une politique impériale de persécution des chrétiens, et commence alors le balancement qui va conduire à la conversion de Constantin. L'Empire romain est devenu une communauté politique unique et homogène. Tout le monde est romain, tout le monde est citoyen romain. C'est devenu aussi une communauté culturelle homogène. La culture, c'est l'hellénisme, tout le monde est de culture grecque. Donc, dans une communauté politique et culturelle homogène, il faut une religion homogène. Et là se pose la question, qu'est-ce que ce sera? On cherche un culte universel, capable donc de rendre compte, de convenir à une communauté ainsi unifiée. On a pensé au culte du soleil, et Constantin est arrivé au monothéisme par le culte, en étant d'abord le dévot du dieu soleil. On a pensé à des cultes vieux romains, on a pensé au culte impérial, et on a surtout essayé d'imposer une pratique rituelle commune à tous les sujets de l'Empire, quel que soit le dieu concerné. Il fallait sacrifier à un dieu de l'Empire. Et les Juifs ont été dispensés comme monothéistes reconnus, les chrétiens n'étaient pas reconnus, donc les grandes persécutions impériales ne visent pas directement les chrétiens, mais vise ceux qui ne veulent pas sacrifier à un culte officiel de l'Empire. Et c'est une obligation, donc, pour les chrétiens convaincus, je dirais, de sauter, comme on dirait aujourd'hui, en refusant donc de participer à un sacrifice. Donc c'est vrai qu'il y a eu, à la fin du 3e siècle, une politique impériale de persécution, mais toujours très réduite. La persécution d'Eudèse en 250 a duré une année. Celle de l'empereur Valérien en 258-259 a duré 2 ans, et ce qu'on appelle la grande persécution, au tournant du 3e-4e siècle, a elle duré une dizaine d'années, mais de façon très intermittente et très inégale, donc suivant les régions. Donc c'est aussi un éclairage qu'il faut donner à l'histoire de l'Église, ou à l'histoire des chrétiens, ou à l'histoire du christianisme. C'est que ça n'a pas été une religion uniquement, continuellement persécutée, qui s'est donc incarnée dans un idéal du martyr, des fous de Dieu, des fanatiques de la mort, comme on le dit quelquefois encore aujourd'hui, je renvoie encore au livre d'Onfray, par exemple. Ça a été des relations beaucoup plus complexes, variables aussi, entre les chrétiens et le pouvoir impérial romain, ou les pouvoirs municipaux locaux, mais qui posait d'emblée donc un problème, le problème sur lequel ont réfléchi les apologètes chrétiens, le rapport au monde, le rapport au monde séculier, le rapport au politique, qui est déjà finalement posé dès les épîtres de Paul, le texte fondateur du christianisme. Et en fait, les chrétiens arrivent très tôt à un positionnement d'éthique politique sous condition, en quelque sorte. Il faut être un bon citoyen dans des conditions conformes à l'évangile du Christ. Vous trouvez ça dans l'épître aux Philippiens de Paul. Vous le retrouvez dans un texte très intéressant sur les rapports au monde séculier qu'on appelle l'épître à Diognète, qui a été Diognète, D-I-O-G-N-E-T-E, qui a été composé à Alexandrie à la fin du 2e siècle, et donc qui pose très tôt les rapports du religieux au politique dans le cadre du christianisme. Alors, beaucoup de choses se sont construites, beaucoup de choses donc se sont mises en place, mais il reste finalement la question doctrinale. Je finirai par là simplement comme ouverture donc sur la conférence suivante qui vous attend. L'élaboration, la construction d'un monothéisme trinitaire, d'un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Comme je vous le disais, la profession de foi des martyrs n'est pas trinitaire, et elle est même assez imprécise. Je crois en un Dieu créateur, monothéiste, j'appartiens au Christ. On n'a jamais douté que le Christ ait été Dieu, et la table eucharistique dont je parlais, trouvée dans ce camp légionnaire de Samarie, d'Israël, le montre bien. Mais comment était-il Dieu? Toute la question à poser là-dessus. Dieu l'avait-il adopté? Dieu était-il un roi? Et le Fils était-il subordonné? Était-il le Verbe divin, mais subordonné au Père? Donc la question était double, qu'on a débattu pendant 2 siècles, même 3 siècles, était double. D'une part, la subordination ou l'égalité, et quelle égalité de nature ou de substance du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, au Père. On ne parlait même pas du Saint-Esprit encore. Et ensuite, donc, de nature. Si le Christ était homme, puisque tout le monde savait qu'il avait existé, et Dieu, était-il une seule nature? N'avait-il que l'apparence d'un homme? C'était ce que défendait ce qu'on appelait les faisants semblants. Était-il semblable à Dieu? Était-il de même essence que Dieu? Quelle était la nature divine? Aujourd'hui, ça paraît des débats très lointains, mais ça a enflammé donc les débats entre chrétiens à partir de la fin du IIe siècle, où un courant charismatique en Asie mineure, c'est dans l'actuelle Turquie, qu'on appelait la nouvelle prophétie, a revalorisé, en s'appuyant sur les évangiles, le Saint-Esprit, le rôle de l'inspiration et des inspirés dans le devenir du christianisme. Et donc a posé que la véritable autorité, l'autorité suprême, était charismatique, s'opposant ainsi à l'autorité établie des évêques. Il faudra attendre donc le concile de Constantinople au 5e siècle, pour que le Saint-Esprit, l'Esprit, soit vraiment posé comme la troisième personne divine. Et quant à la nature, à l'articulation du Père, du Fils au Père, en termes d'égalité et en termes de nature, il y aura toute la série des grands conciles du 4e, 5e siècle, depuis Nicée jusqu'à Chalcédoine, que vous verrez dans la prochaine séance, pour trancher et, j'ose pas dire apaiser, les divisions entre chrétiens. Voilà donc ce qu'on peut dire d'une histoire quelquefois revisitée, plus ou moins revisitée, du Christ, ce que les Anglais appellent justement le christianisme primitif, c'est-à-dire celui des 3 premiers siècles. Je vous remercie.
Merci.